Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Eric Brion, Dark Planner. Eric, je le connais depuis...
Trop longtemps.
Depuis 12 ans, je pense. Depuis que j'ai créé mon blog, ouais. En fait, je pense qu'on s'est rendu comme ça. Et Eric, alors, il a fait plein de choses. Il est planeur stratégique chez Publicis dans le luxe. Il a écrit 4 bouquins,
je me trompe.
3 bouquins. Un sur le buzz.
Beaucoup trop tôt, en 2002.
Donc hyper tôt.
C'est à l'époque qu'on pouvait écrire des bouquins trop tôt.
C'est
en marketing,
ça.
Ce qui est totalement impossible.
Et ensuite, 2 bouquins sur le luxe.
Voilà.
La Gen Y, donc plutôt Gen X et Gen Y, pardon.
Complètement Y, parce que les Z n'existaient pas encore à l'époque.
Plutôt Y, voire Millennials et le luxe. Et puis ensuite.
Luxe et digital.
Luxe et digital.
Des petits sujets très simples
voilà,
qui n'embêtent pas le monde du luxe.
Et en fait, bien sûr qu'à l'ère digitale, il y a énormément de choses qui bougent. Mais entre autres, le luxe, ça se transforme complètement. Il y a un rapport à ce qu'est le luxe aujourd'hui qui a beaucoup bougé. Il y a un rapport des jeunes, en particulier les plus jeunes, donc Gen Z, génération Z, au luxe qui a vachement bougé. La question que j'ai pour toi et qui est large, mais après on va en discuter, c'est quoi le luxe en 2017 ?
Alors, bonjour Greg d'abord, et puis comme je vais pas être comme si tu étais un journaliste, je vais vraiment répondre à ta question.
Ah,
je
ça,
répondrai pas à la question quand même bon la mécanique. Alors c'est vrai que c'est facile de dire le luxe c'est l'expérience, le luxe voilà, enfin c'est ça devient totalement bullshit, mais je voudrais juste partager justement une expérience. Je reviens de Naples.
Voilà.
C'est plus fort que moi. Je reviens de Naples où j'ai eu la chance de visiter, de m'immerger dans une vraie marque, une vraie maison de luxe qui est la maison Keaton. La maison Keaton, faut savoir c'est on va dire les costumes les plus chers du monde, des costumes facilement à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Alors comme ça, on se dit, oh là là, voilà, on est dans une logique un peu bling, et en fait, quand on rentre dedans, c'est pas du tout. Et donc j'ai plongé dans des ateliers gigantesques où il n'y avait pas de machines, où très très peu de machines, tout est fait main, où il y a ce rapport au temps incroyable, où on comprend quelque chose qui a un peu disparu dans notre monde, où tout est jetable, qui est la qualité. Alors j'ai envie de dire que cette expérience, alors ça passe de l'atelier à quelque chose qui m'a complètement fasciné, qui est la cantine, en fait. C'est-à-dire que donc c'est une famille, les employés, en tout cas le high management, ils mangent tous sur une table, le président est au centre, il rit, il raconte sa vie, les plats qui étaient servis, et c'est une cantine, étaient juste extraordinaires. Ouais. Hyper simple, c'était de la mozzarella avec du jambon et des pâtes cuits merveilleusement, c'était anti-bling, et c'était la qualité. Donc quelque part, ce rapport du fait main et cette qualité complètement obsessionnelle, et j'ai envie de dire le luxe, c'est un petit peu la signature de Keaton, c'est best of the best plus one. Best of the best, donc c'est extraordinaire, parce que best of the best, voilà, c'est l'ultra qualité, mais le plus one, bah c'est quoi? C'est le supplément d'âme, c'est la culture, c'est la logique. Donc quel secteur extraordinaire, quoi.
Mais alors du coup, c'est marrant que tu dises ça, parce que quelque part, il y a des marques qui font de la qualité, et je pense en particulier à Chanel. C'est vrai qu'il y a, à noter quand même qu'il y a, je pense, beaucoup de marques qui ont réduit la qualité. Là, pour le coup, je pense à Ralph Lauren, je pense à Calvin Klein, qui n'étaient pas dans le luxe, mais qui avaient quand même une image un peu, on va dire, supérieure, et qui ont...
Mais le style a pris le pas sur la qualité.
Détruit la marque.
Je pense que le style a pris le pas sur la qualité.
Ouais.
Vraiment, enfin, on est dans une obsession de style. Instagram ne fait pas passer cette notion de qualité. On le sait, et on est bien placé à quel point nos marques de luxe, beauté, sont complètement devenues dépendantes d'Instagram, que finalement, on est face à une disparition du mot pour un triomphe de l'image. Et faire passer cette qualité tout en étant sexy dans ce monde est difficile. Mais retrouver cette qualité, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, vraiment fondamental.
D'accord. Mais alors du coup, enfin, est-ce que tu penses...
Rééduquer sur la qualité. Je pense qu'il y a une notion d'éducation. Et c'est amusant. Sur un autre exemple, puisque là, je suis, bon, voilà, on va dire dans le masculin, okay, dans le costume, Là, c'est intéressant, comme le costume était devenu ringard, et aujourd'hui, le costume reprend une nouvelle jeunesse. Ouais, on a vu McGregor avec ce match sur Mayweather. Aujourd'hui, il a relancé vraiment le costume, et que le fameux costume où il y a écrit « Fuck you » est devenu un best-seller là. Et voilà, est-ce qu'il y a de la qualité, c'est à voir, mais voilà. Bon. Mais alors, et je reviens juste sur la qualité, sur ces marques de costumes. Ce qui est incroyable, c'est que ce que je vois, c'est que les jeunes maisons qui sont sur des prix à 400, 500 euros françaises, ont vraiment ce discours, finalement, le style c'est important, mais revenons à la qualité, avec vraiment une posture totalement engagée, complètement transparente sur cette qualité perdue et qui doit être retrouvée.
Alors du coup, toi tu tranches du côté des Français, quand il y a eu ce débat, je pense que c'était il y a un an sur Instagram justement, entre Burberry et les maisons américaines, je pense en particulier à Diane von Schoenberg, qui disait en fait on va faire de l'instant sale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens voient le défilé, ils peuvent tout de suite acheter, et de toute façon on peut pas éviter ça, parce qu'aujourd'hui quand les gens voient la chose sur Instagram, ils le veulent, c'est un désir tout de suite, et ils vont pas attendre 6 mois pour l'avoir, tandis que les maisons françaises étaient plus dans une discussion de oui mais justement on est dans la qualité, on est dans le temps, il faut attendre, etc. Qui sont passés pour des passéistes. Donc toi, t'es plus dans cette.
Je pense qu'il y a un juste milieu. Oui, parce que quelque part, le See Don't Buy Now, on y revient un petit peu, hein, parce que ça a été un superbe élément de communication où en effet les marques américaines ont extrêmement buzzé
dessus. Dans le reste américain, mais
voilà, enfin dans le luxe anglo-saxon en tout cas. Ouais. Parce que si je prends Tom Ford par exemple sur l'américain, qu'on voit le See Don't Buy Now aujourd'hui, il est vraiment réduit la voilure. Donc en effet, il y a cette bataille. Mais même si je reprends Burberry, c'est l'exemple très intéressant. On voit le revirement qu'a fait Burberry depuis peu, regardez ses communications, ainsi de suite, on redevient sur quelque chose qui est beaucoup moins fashion et beaucoup plus intemporel, beaucoup plus artistique. Donc c'est vrai qu'en ce moment, cette obsession de la qualité, d'un rapport au temps différent, est fondamentale. Et ce qui est très intéressant, c'est que véritablement, c'était un peu la folie du bouquin « Luxe et digital » où ouais. On dit à un moment donné, le luxe doit avoir une vocation sur le digital. Le luxe n'est pas du tout incompatible avec le digital, mais il doit essayer d'avoir une autre musique. Et aujourd'hui, moi je le sens en tout cas, que certes, il y a cette envie furieuse d'avoir tout de suite, mais peut-être c'est pas forcément la place du luxe, ou alors en tout cas, le luxe doit certes peut-être répondre à ça, mais doit trouver aussi un espace différent, et l'espace de la qualité et le tout de suite est incompatible. C'est une notion d'éducation, c'est une notion de courage. C'est ce qu'on disait, le luxe doit un peu apporter de l'humain dans le digital, et c'est complètement ça. Et aujourd'hui, on sent que beaucoup de marques de luxe commencent à dire bah, finalement, mes contenus, mes expériences que je crée, c'est pas aller plus vite, mais c'est simplement respirer. Cette philosophie-là, humaniser un peu le digital, ça paraissait complètement fou, mais en tout cas, ça devient une réalité
alors
aujourd'hui.
Alors comment on explique que Chanel perd autant de parts de marché? En tout cas, ils sont dans des résultats qui sont plutôt négatifs. Comment on explique qu'une marque comme Chanel, qui est quand même une des marques emblématiques, je pense, avec Hermès, enfin voilà, c'est les deux grosses marques, je pense, enfin en tout cas, grand public et française, qu'on connaît bien. Comment on explique ça, en fait?
Ben, c'est vrai qu'il y a une contradiction, c'est difficile à expliquer. En termes de communication, ça ne s'explique pas. Parce que finalement, il suffit de regarder les plus grands sites d'analyse pour montrer que, par exemple, sur YouTube, Chanel a un savoir-faire pour faire de la vidéo sur Internet totalement unique. Mm-hmm. J'ai plus un questionnement aujourd'hui sur, entre guillemets, Lagerfeld. Ou sur le produit à proprement parler ici, est-ce que aujourd'hui n'est-il pas le temps d'un besoin de réinvention? La communication, le défilé sont extraordinaires. Est-ce qu'il y a une réflexion produit? Est-ce que la suite ne doit pas arriver?
Moi, j'avais la sensation que, pour moi, le luxe, c'est pas tant de vendre des produits, c'est de vendre du désir. Et j'avais la sensation que le désir au XXIe siècle, ou le désir à l'ère digitale, il a vachement évolué. C'est plus forcément d'avoir le dernier sac, d'avoir le dernier tailleur, je sais pas quoi. Mais je tombe dans ce truc d'expérientiel, mais peut-être que c'est plutôt l'expérience que je vais avoir avec cette montre, l'expérience que je vais avoir avec ce sac. Peut-être que ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un sac vintage.
Et c'est pour ça que l'attente doit faire partie de l'expérience, entre guillemets. Parce que le tout, en fait, quand il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de désir. Une femme qu'on désire, on l'attend. Un sac qu'on désire, on l'attend. Si c'est, on claque des doigts, quelque part, le désir devient périssable. Et je suis d'accord. Et ça, c'est un énorme challenge par rapport à l'Asie, quand même, par rapport à les millénials. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le statut social passe plus par les expériences qu'on vit et qu'on transmet que par les objets. Et c'est pour ça que je pense il n'y aura pas le choix, c'est que demain, les Vuitton, les Hermès, les Chanel vendront des expériences.
Bah, ce que fait Vuitton avec le voyage,
avec Close 19. Enfin, pour moi, Close 19, c'est vraiment le laboratoire d'LVMH sur un luxe expérientiel. Close 19, simplement pour en deux secondes, ouais. Site à la base d'e-commerce sur tout ce qui est vin chez LVMH, mais on voit que finalement le cœur, c'est aller prendre, en effet, déguster un vin extraordinaire à l'autre bout du monde, et finalement Claudio s'occupe de tout pour vous faire la croisière et ainsi de suite. Donc on vend des moments extraordinaires. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on sent en effet qu'on est sur un secteur qui est fascinant, qui réapprend, et je trouve qu'il a une énergie débordante, et il se remet vraiment en question. Et pourquoi ? Bah parce qu'il y a les aides, il y a les millennials, il y a le digital, et ça les obsède, et c'est tant mieux.
Et on va parler un petit peu des millennials après, mais t'as pas la sensation qu'il y a aussi cette histoire de club, les gens ont besoin de se regrouper, on voit bien qu'il y a du communautarisme dans tous les sens, alors on pourrait partir de l'islamisme jusqu'au catholicisme franc, on va dire.
Oui, non, mais c'est le rapport à la transcendance.
Ouais,
enfin, je veux dire, en fait, aujourd'hui, je pense, il y a une bataille qui se fait, c'est intensité contre la transcendance. Quand je suis dans le Sinobaina, je vends une intensité. Donc finalement, ma vie, elle est sexy. En fait, elle n'est faite que d'orgasme, quelque part.
Bien sûr.
Et ça, c'est tout de suite. Mais à un moment donné, il y a un épuisement qui se fait et il y a une vacuité qui arrive. La bataille de la transcendance aujourd'hui, en tout cas, tout un pan de la religion clairement disparaît. L'homme a besoin de cette transcendance. Et il peut la trouver dans un luxe qui n'est pas que, en effet, axé sur le matériel, mais sur l'immatériel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en effet, on rentre non pas dans un club privé anglais, mais on rentre plus dans une marque. C'est comme une salle d'exposition, en fait. Voilà ce que je compare. Vous voyez, c'est une exposition. En fait, une marque de luxe, c'est Beaubourg. Et il y a des objets, mais surtout, il y a une culture.
Il y a des gens aussi.
Il y a des gens, exactement. Enfin, il y a de l'humain, ça circule. Et finalement, tout ça, c'est de la transcendance. Et il ne faut pas l'oublier.
Et tu n'as pas la sensation qu'une marque de luxe, elle pourrait, par exemple, créer une sorte de club où les gens se rencontrent
Avec l'inclusivité.
Avec de l'inclusivité.
Mais c'est ça, en fait. C'est tout. Mais je pense que l'énorme challenge, c'est cette notion d'inclusivité. Alors, comme on est, au fait d'une culture anglo-saxonne, l'inclusivité vient du luxe anglo-saxon. Mm-hmm. Le luxe français n'est pas inclusif à la base. Il est clanique. On le voit, quand on voit, quand même, cette année, pour moi, le gros événement luxe, c'est Vuitton Suprême. Mmh. Bah, Vuitton Suprême, c'est quoi ? On sent que véritablement il y a une tension, énorme désir du public, mais à un moment donné, on ferme la voilure parce que l'inclusivité, ça peut gêner. Donc, mais c'est extraordinaire. Il y a plein de sujets, la culture, l'inclusivité, la place du digital.
Et alors, justement, quand on parle digital, on pense évidemment. Digital native, même si ça reste
complètement pourri et que on s'est vu parce qu'on a écrit le bouquin, on savait déjà parce qu'on avait commencé par dire pourquoi, parce que tout le monde vomit sur le concept de millennials, beaucoup moins maintenant, mais en tout cas digital native, en effet, cette idée que il y a un sixième sens sur les outils digitaux des jeunes. On sentait que c'était complètement bullshit. Donc là, on emploie le mot, pas le mot, mais on croit par contre notion de génération.
Ouais, c'est ça. C'est quoi leur rapport au luxe, ces gens-là?
En fait, les millennials, à l'arrivée, c'est fascinant. C'est un rapport de fascination. Ils ont été élevés comme les enfants rois. Ils arrivent dans le monde du travail, ils ne sont plus les enfants rois. Et au contraire, c'est des problèmes, c'est des complications. Et finalement, le luxe, c'est cette respiration. Simplement, ce luxe, il est différent. Ils remettent en cause un peu les marques. Et finalement, le top 1 disparaît et au profit d'autres marques. Ça, c'est les millennials, finalement, c'était compliqué, mais pas mission impossible. Et la preuve, aujourd'hui, il suffit de voir le succès. En fait, c'est quand même incroyable, parce que souvent on m'a dit, ouais, mais les millennials, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ça n'intéresse pas au luxe. En fait, aujourd'hui, les marques les plus désirables dans le luxe, d'un point de vue économique, sont les marques qui sont fortes en millennials. Mm-hmm. Gucci, étant le plus bel exemple, aujourd'hui, voilà, c'est le masterclass. Après, ça peut changer, hein, parce que quand on a écrit, c'était Burberry qui était le cas. Mais en tout cas, Gucci, aujourd'hui, c'est 50% de la clientèle qui a moins de 35 ans. Et comme par hasard, c'est aujourd'hui la plus désirable. On pourrait dire pareil avec Saint Laurent. Alors à savoir si il y a un savoir-faire millénial chez Kering. Donc ok. Les aides, c'est beaucoup plus tendu. On va dire que c'est les millénials empires, souvent on le dit, avec une plus grande difficulté. C'est que Vraiment, je commence à travailler le sujet et je vais vraiment prendre le temps parce que là, c'est en construction. On sent que le rapport au luxe est différent. Il n'y a pas la fascination qu'ont les millennials. Il n'y a pas la fascination. Il y a un rapport beaucoup plus naturel. Luxe égale cher égale argent et finalement une forme de vacuité. Et que, d'une part, la fascination n'est pas là. Deuxièmement, j'ai l'impression, vous savez, quand on se rappelle de mai 68, c'est quand même, rappelons-nous un peu, parce qu'on est dans un monde voilà, d'instantané, et finalement, aujourd'hui, c'est un peu ralentir et prendre du recul. Pour moi, le planeur stratégique, c'est un médium qui doit voir les choses que les gens ne voient pas. Mai 68, le luxe, c'était le symbole d'une société, justement, complètement enfermée sur elle-même, d'une société verte, et les jeunes n'aimaient pas le luxe. Au contraire, j'ai envie de dire, c'était réactionnaire.
Bien sûr.
On a basculé à autre chose avec les millennials, et les Z, j'ai l'impression, ont cette tension un peu de...
Mais ils sont aussi plus responsables. Consommer du luxe, c'est aussi consommer responsable, parce que c'est un produit...
Donc si luxe égale cher... Eux, ça leur va pas. Et donc, il y a cette notion en effet de responsabilité, il y a cette notion même très politique. Moi, je les trouve très engagés. Alors, c'est pas engagé dans des partis, hein. C'est engagé. Il suffit de voir, soyons clairs sur la notion d'engagement. Quand je regarde, alors, prenons un exemple, Teen Vogue. Alors, Teen Vogue, donc, on va dire la déclinaison Z de Vogue. Regardez les couvertures, regardez le contenu, on est sur quelque chose où, certes, il y a des célébrités, mais il y a autant de célébrités que d'activistes dans le domaine écologique, ouais. Dans le domaine féministe. Quand on regarde les séries pour la génération Z, on est sur des choses qui sont, en effet, extrêmement engagées, très naturalistes, très sociales, très hard.
Justement.
Et là, du coup, il y a une forme d'incompatibilité potentielle entre les Z. Et en plus, il y a une force du Z, c'est qu'ils ne respectent aucun classement. Donc ça veut dire pour nous, par exemple, si on se dit, voilà, les marques mythiques du luxe, c'est ça, ils sont incontournables, ils s'en foutent. Ouais. Donc aujourd'hui, il va y avoir. Les millennials, c'était un gros défi, et puis les millennials vieillissent, puis ils deviennent des parents, et puis la vraie question, c'est est-ce que les millennials deviennent comme la génération X maintenant ? Il y a une évolution des millennials. Voilà. Mais les X, il ne faut pas les oublier quand même.
Non, c'est les concepts du Chanel.
Voilà. Donc, voilà, j'ai l'impression que les millennials étaient un très beau défi, ils le restent, mais la Z va être bien plus complexe.
La Z, moi, je la trouve plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus responsable, beaucoup plus intelligente.
Mais la fascination au luxe est beaucoup moins naturelle.
Ça, c'est sûr.
Et surtout, le questionnement de la possession est encore plus forte.
Alors, ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, c'est l'accès.
C'est ça, beaucoup en plus pire, en plus fort. C'est les millennials au carré.
C'est pour ça que je te parlais d'expérience tout à l'heure. Est-ce que les marques n'auraient pas intérêt à développer des systèmes d'accès ? C'est ce qu'a fait BMW avec de la location de voitures, typiquement, où ils ont fait un partenariat avec Sixt.
Oui. Alors, mais je pense, en fait, il faut faire. Alors, c'est un vrai questionnement, ça, sur l'accès. Déjà, j'ai envie de dire, de toute façon, moi, c'est le bilan que je fais par rapport à cette question millénial, luxe, mode. Les marques, souvent, se disent, on fait une pub millénial, on fait de la communication millénial, si ça va suffire. Non, ça part du produit et du service et de l'expérience produit qui va avec. Et après, on fait la communication. Mais combien... Moi, je reçois des briefs sur les millénial tous les jours, on va dire. Il y a ce cas de misère de la pub millénial.
Bien sûr.
Et elle existe toujours là. Et c'est plus facile de faire une pub millénial, un film millénial, un site millénial...
Ça donne bonne conscience.
Un produit. Ça, voilà, c'est ça. Et bien, et oui. Alors, la deuxième chose, c'est aussi, est-ce qu'il faut faire une ligne millénial ou une ligne jeune, entre guillemets? Ben on voit que ça marche pas, ça marche plus en tout cas.
Non, parce que une dimension servicielle.
En fait. Ben oui, ben parce que mais c'est l'accessibilité. Je pense que c'est ta question si tu veux. Parce que on peut dire, on va faire une cible, on va faire une marque Z, d'accord. Chanel Z par exemple. Mais ça voudrait dire quoi? Comment ils verraient la chose? Ça serait une bêtise totale parce que clairement aujourd'hui on verrait ce produit comme un produit dégradé, mais au prix trop cher.
Bien sûr.
Donc c'est l'accessibilité. Mais comment on garde l'accessibilité? En effet, la location, des choses comme ça. Mais le questionnement, c'est est-ce que c'est la bonne solution? Elle paraît extrêmement juste, mais il faut garder cette idée de transcendance.
Bien sûr.
Louer, ça peut être considérer que le produit devient jetable à proprement parler.
Non, mais c'est accéder. Je pense que accéder, c'est pas louer. En fait, c'est vraiment pas la même notion.
Mais
en fait.
Je revois, par exemple, je reviens, ça m'a fasciné sur Keaton. Sur Keaton, en fait, tant qu'on n'a pas mis le produit, Bah, il y a un effet magique qu'on ne comprend pas. Quoi. Ouais, et donc, forcément, si...
Entre même moi, j'ai du mal à saisir.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sublime, mais en même temps, tu peux partir en avion. Et ainsi, ça ne se froisse jamais. Tu peux vraiment avoir une vie hyper active. Tu es toujours impeccable. Donc, tu es loin de ce côté un peu fétichiste, mon Dieu. Donc, pour nos vies actives, moi, c'est parfait. Voilà, c'est ça, exactement. Mais tu portes une semaine ce produit, qui devient bien plus qu'un produit. Ça devient ta seconde peau et ça change tout. Il faut arriver à ça, quelque part. Mais il faut le gérer.
Et si on... Alors, on va devoir bientôt conclure, mais si on avance vers cette histoire de digital... Bon, pour moi, le digital et le luxe, je pense que c'est pas que c'est un faux problème, mais le digital, c'est dans nos générations, donc on peut pas vraiment l'ignorer, on est obligé de faire avec. Je pense pas que les marques de luxe puissent en faire l'économie.
Ah non. Il y a aucune incompatibilité. Il y a un mauvais digital, il y a un bon digital. Il faut que le digital soit leur image. Il faut pas tomber dans le piège de... En fait, il faut que le luxe ne tombe pas dans le piège de la mode. En fait, la mode peut tuer le luxe parce qu'il rend le produit gadget. Eh bien, le digital, ça peut être de la mode. Il peut gadgetiser le produit. Et c'est pas en séduisant les aides. Ben, pour terminer, je trouve qu'il y a un challenge extraordinaire. Je prévois une guerre entre les aides et les millennials. La compatibilité entre les deux générations va être compliquée. Parce que quelque part, il y a un leadership en termes d'influence qui va être là. Ouais. Aujourd'hui, le est donné par les millennials. Ils sentent très bien que les Z poussent et on voit des problèmes de communication qui arrivent où on fait des communications extrêmement Z-centriques et finalement les millennials gueulent à l'arrivée. Ouais. Donc il va y avoir un défi de cohabitation générationnelle parce que les deux sont très différentes.
Ils sont hyper différents parce que tu peux dire tout à l'heure, les millennials c'est vraiment l'enfant roi tandis que les Gen Z, on en parlait tout à l'heure, ils sont pas comme ça et ils sont beaucoup plus responsables.
Et puis pour vous dire, parce que en plus, moi je prépare un prochain bouquin forcément sur ces questions-là et surtout une grosse étude qui est en place. Autant on m'a reproché, c'est dingue, dire voilà, vous dites les millennials ils sont comme ça. Autant je sens chez les Z une atomisation beaucoup plus forte. Et qu'on ne peut pas dire les Z sont comme ça. Il y a des tribus qui vont être hyper engagées, mais en même temps, il y a des tribus qui vont en effet sur le salon YouTube Beauty, qui vont boire la parole des YouTubeuses beauté sans se poser la moindre question, sans le moindre raisonnement. Donc, tout n'est pas pareil, mais en tout cas, il y a une dominante très forte radicale de remise en question globale.
Génial. Bah, c'est super. C'est dommage parce que même moi je suis frustré. Alors,
c'est bien pour un matin parce que là c'est dur.
On me dit parfois que c'est frustrant, que ça dure que 20 minutes, mais même moi je suis frustré. Ce podcast il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Le concept, au concept traditionnel de l'agence. Ouais. En fait. Moi il y a une phrase qui m'a marqué cette année dans le monde du luxe. Alors c'est une phrase un peu liée à l'agence, c'est Ian Rogers, quand on l'a interrogé...
CDO du groupe LVMH. Voilà,
Digital Chief Officer.
CDO.
CDO, j'avais pas entendu le dire, parce que j'avais dit CEO.
Non.
Voilà. Et c'est le matin, j'entends pas tout. Et lors du lancement de 24 Sèvres, on lui posait une question, quelle est votre plus grande fierté? Il a dit, on a fait ce grand site e-commerce en interne sans passer par l'agence. Comme on fait à San Francisco. Ouais. Ça, c'est une sacrée question sur l'agence traditionnelle. Ouais. Et elle doit se la poser pour ne pas avoir le vlan, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, même sur les contenus, hein, d'ailleurs, les marques internalisent de plus en plus.
Clairement.
Génial. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.